7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
La question du jour, Google est dans le viseur de la justice américaine. Fondée en 1998, l'entreprise dédiée aux services et technologies numériques est devenue aujourd'hui un mastodonte outre-Atlantique. Le ministère de la Justice et 11 États ont ouvert mardi une enquête contre le géant du numérique pour abus de position dominante. Qu'est-il reproché précisément à Google ? Pourquoi engager des poursuites maintenant et le monopole de Google est-il devenu trop encombrant ? Bonjour Francis Bloch, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Paris 1 et à l'École d'économie de Paris. Pouvez-vous nous dire ce qui est reproché aujourd'hui à Google ?
Alors le document produit par le département de la justice américain n'est pas très explicite. La chose principale qui est reprochée à Google sont des accords qui sont des accords avec les constructeurs de téléphones mobiles, Apple et les constructeurs de téléphones sous Android. Et ces accords, en fait, sont des accords de préinstallation du moteur de recherche Google, c'est le cas chez Apple, ou même de préinstallation du navigateur Google Chrome, et c'est le cas sur les téléphones Android. Alors, ce que je trouve assez ironique dans cette attaque du département de la justice américain, c'est que ça reprend quasiment mot pour mot une procédure qui avait été engagée par la Commission européenne et qui a donné lieu à un jugement en 2018 avec cette amende record de plus de 4 milliards d'euros contre Google.
Et oui, effectivement, on s'en souvient, Francis Bloch, mais alors, on se dit que même si ces logiciels sont préinstallés, il est après tout loisible à tous les utilisateurs de les utiliser ou pas.
C'est très difficile. Je ne sais pas si vous avez essayé sur votre téléphone mobile de sortir d'un navigateur pour en installer un autre. C'est quasi impossible.
Je vous dis impossible. De la tête, mais bon.
Donc, c'est possible plus ou moins sur un appareil du type un ordinateur portable. Là, on peut effectivement changer le défaut du navigateur ou du moteur de recherche. C'est bien plus difficile, quasi impossible sur un téléphone portable.
Alors, est-ce que ce type d'accord est illégal ?
Il n'est pas illégal en tant que tel, c'est-à-dire c'est un accord entre deux entreprises qui ont le droit de passer les accords qu'elles souhaitent passer. En revanche, c'est très clairement un abus de position dominante, il n'y a aucun doute là-dessus. La Commission européenne l'avait reconnu et je pense que le département de la justice le reconnaîtra aussi.
Et alors du point de vue économique, on se dit que les États-Unis ont tout à gagner, pas du point de vue de la morale, peut-être pas du point de vue du droit, mais en tout cas du point de vue de leur intérêt et en tant que nation, du point de vue de leur économie, à favoriser ce type de champion, puisque Google est bien évidemment en position extrêmement favorable partout sur la Terre.
C'est difficile de ne pas voir une arrière-pensée politique dans l'annonce aujourd'hui, à quelques jours de l'élection présidentielle américaine. Et j'ajoute que la procédure qui a été engagée par le département de la justice a été rejointe par 11 procureurs d'État qui sont tous républicains. Et la plupart des États du Sud des États-Unis. Donc ça ressemble malgré tout à un coup politique. Pourquoi un coup politique maintenant ? Probablement pour montrer que les républicains restent attentifs aux consommateurs, souhaitent d'une façon ou d'une autre marquer le coup contre une entreprise dominante du type de Google. Ceci dit, c'est vrai que je ne crois pas de mémoire qu'il n'y ait jamais eu un procès de cette ampleur-là qui a été engagé si près d'une élection présidentielle. Et avec autant de fanfare, puisque le département de la justice l'a annoncé et l'a présenté comme le procès du siècle, qui allait être un procès gigantesque dans la procédure antitrust aux États-Unis.
Mais oui, parce que c'est quand même très étrange, parce que les entreprises aux États-Unis, en tout cas c'est l'impression qu'on a, ont une forme de couleur politique. Alors, il y a par exemple Google, Facebook, donc qui serait plutôt démocrate, Oracle serait plutôt républicain. Est-ce que c'est véritablement comme ça que les choses sont perçues, Francis Bloch ?
Alors, en fait, si on regarde Google, les GAFA ont été attaqués des deux côtés, aussi bien côté républicain que côté démocrate. Donc, la procédure qui est entamée aujourd'hui est une procédure engagée côté républicain, mais qui fait suite à une enquête à la Chambre des représentants, qui avait été menée par un représentant démocrate, David Cicilline, qui l'enquête s'est terminée le 6 octobre, et cette enquête, en fait, concluait aussi à un abus de position dominante de Google, mais de façon différente. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que, si vous vous rappelez, par exemple, la campagne d'Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, quand elle avait fait campagne pour les primaires, un des éléments clés de sa rhétorique avait été le démantèlement des GAFA. Et elle avait proposé de démanteler Amazon et Google pour un argument que je trouve particulièrement pertinent, qui était de dire qu'Amazon et Google sont à la fois des intermédiaires et des participants. Donc si vous prenez Amazon, par exemple, Amazon est à la fois un distributeur et une plateforme qui met en contact des distributeurs et des consommateurs. Et donc Amazon peut utiliser sa position de monopole en tant que plateforme pour influer sur les conditions de concurrence et permettre éventuellement, par exemple, la disparition de distributeurs ou reprendre l'exemple qu'utilisait Elizabeth Warren. C'était un exemple d'un petit distributeur, une petite start-up qui commencerait dans une niche particulière qui aurait du succès et Amazon immédiatement reprendrait le flambeau et ferait disparaître ce petit distributeur.
Ben oui, mais alors, si on interroge cette notion d'abus de position dominante, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, autrement dit, d'Amazon dans ce cas d'espèce, Francis Bloch, mais on peut se dire qu'a priori, aucune règle en économie ou dans une économie libre n'empêche un acteur d'absorber plusieurs activités, plusieurs facettes de l'activité économique.
Non, je suis assez d'accord avec ça, d'autant plus que il me semble que la procédure qui est engagée actuellement manque son but. C'est-à-dire que on peut pas, à la lecture de ce que fait Google en préinstallant son moteur de recherche, l'accuser de jouer contre le consommateur. Je pense que les parties qui vont subir le plus de dommages sont effectivement les concurrents, Microsoft et Yahoo, éventuellement les annonceurs, puisque les annonceurs font face à un monopole dans le marché des annonces. Mais en revanche, on ne peut pas dire que le consommateur est perdant. Et c'est d'ailleurs l'argument de Google. Google dit le consommateur ne paye rien, il a accès à un service. Et Google ajoute qu'en fait, plus il y a de consommateurs qui utilisent le moteur de recherche Google, plus la qualité du service sera élevée. L'idée étant que si on veut augmenter la qualité du service, avoir la meilleure association entre un mot-clé et une liste de sites, il faut qu'il y ait de plus en plus de monde qui en fait fasse la même recherche.
Alors c'est quand même un peu un mensonge par omission, parce que Google dit le consommateur ne paye rien. Si vous voulez avoir accès au cloud Google, à partir en tout cas d'une certaine masse de données, vous êtes obligé de payer et vous êtes presque conduit naturellement au cloud de Google si vous utilisez par exemple Gmail. Est-ce que ça ne peut pas être considéré comme un abus de position dominante, Francis Bloch?
Si, non, là, évidemment, et je pense qu'effectivement la difficulté pour le consommateur vient de tous les services annexes qui sont proposés par Google. C'est-à-dire que maintenant, Google propose non seulement son cœur de métier, qui est le moteur de recherche, mais tous les services autour. Et tous ces services autour, en fait, la régulation devrait faire en sorte que ces services autour soient totalement déconnectés du cœur de métier de Google, qui est le moteur de recherche.
Bon, alors, le vrai casse-tête, en imaginant, c'est de la pure... Du droit fiction, en quelque sorte, Francis Bloch, en imaginant que l'on démantèle Google, comment s'y prendre? Comment séparer les différentes activités de cette entreprise?
Alors, je pense que ce serait une erreur de les séparer complètement. Je pense que le consommateur ou l'utilisateur a un vrai bénéfice à avoir un compte Google unique qui lui donne accès à beaucoup de services différents, mais au sein d'une même entité. En revanche, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est créer des couloirs totalement étanches, c'est-à-dire faire en sorte que Google moteur de recherche ne parle pas à Google Shopping, ne parle pas à iCloud, donc on ait une espèce de déconnexion, donc à la fois garder l'intérêt de la coordination, mais en même temps déconnecter de telle sorte qu'il n'y ait pas de discussion possible, ni d'utilisation des données d'un côté pour exploiter le consommateur de l'autre.
Bon, mais alors, en un mot, en conclusion, Francis Bloch, ça voudrait dire aussi que Google donne accès à son algorithme.
Ça, effectivement, ce sera impossible. C'est la marque de Google. Google ne donnera jamais accès à son algorithme. La même chose s'était passée avec Microsoft dans les années 2000. On avait demandé à Microsoft de rendre son algorithme transparent. Il ne l'a jamais fait.
Merci beaucoup, Francis Bloch. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université de Paris 1.